Chapitre 33. Quand j'arrivai à Nyon, mon visage était si bouleversé de l'horrible révélation que j'avais à faire que je n'eus pas besoin de parler. Les femmes qui aiment ont un regard qui perce tout. Avant que j'eusse dit un mot, Regina savait tout. J'essayai de nier, de prolonger l'incertitude, de dire que je n'avais pas trouvé de lettre à Genève, que j'y retournerais le surlendemain pour y attendre le courrier de Rome. Ma physionomie mentait. Regina n'y fut pas trompée une minute. La froide raison qu'elle avait trouvée depuis quelque temps dans les expressions de Salus l'avait à demi éclairée. Elle se précipita sur moi pour chercher sous mon habit le paquet que je m'obstinais à lui cacher. Elle le saisit, elle lut lentement la première ligne de la lettre qui m'était adressée, et à ces mots seuls, « J'ai fait mon devoir », elle jeta un cri d'indignation et de colère, comme je n'en ai jamais entendu la vibration que dans le rugissement d'une lionne. « Vilta !» s'écria-t-elle en rejetant loin d'elle la lettre qui lui était adressée à elle-même sans vouloir seulement la décacheter. « Renvoyez-lui mon adieu, me dit-elle en italien, je ne veux rien de lui, pas même son sacrifice de sa vie à la mienne. Est-ce que je lui appartiens pour me sacrifier du même coup que lui ? Cruauté et lâcheté, lâcheté et cruauté » criait-elle en piétinant les lettres souillées de sable et de boue sous ses pieds. Cruauté et lâcheté, dont je ne veux pas même voir une image ni une trace autour de moi. Non, non, il n'était pas digne du battement d'un cil d'une romaine. Qu'il aille aimer les filles de neige et d'écume de mer de son pays. Plus rien de lui, pas même son nom, me dit-elle enfin en me lançant un regard de commandement superbe et sans réplique. En disant ces mots, elle bondit plutôt qu'elle ne courut vers l'escalier, monta dans sa chambre, ouvrit sa fenêtre, et les cheveux épars, les bras élevés au-dessus de sa tête, elle fit, en se tournant du côté des montagnes d'Italie, une imprécation entrecoupée de sanglots, comme si elle avait cru que sa voix pouvait être entendue de son amant jusqu'à Rome, et elle jeta d'un geste désespéré dans le jardin toutes les lettres, tous les cheveux, toutes les reliques, tous les souvenirs mutuels de son amour pour Salus. Puis, appelant sa nourrice, « Baglia !» cria-t-elle, « va ramasser tout cela et jette-le au plus profond du lac, après y avoir attaché une pierre, pour que les vagues ne rapportent jamais un débris au jour. Je voudrais y engloutir les 6 mois d'amour et de délire que j'ai eu pour lui. » La nourrice obéit en murmurant et en s'indignant comme Regina, dont elle semblait partager toute la colère. La pauvre comtesse Livia, pâle et muette, sanglotait sur son canapé, combattue entre la joie de recouvrer son enfant tout à elle et la honte de l'avoir abandonnée par son amant. Regina, après cet accès de rage, se jeta sur son lit et resta 2 jours sans vouloir paraître entre les bras de sa nourrice qui cherchait vainement à la calmer. Je rencontrai 2 ou 3 fois cette femme dans l'escalier et je lui demandai des nouvelles de Regina. « Elle reprend son cœur, » me dit la Transtévérine en italien, « et elle guérit sa colère par du mépris. Si c'était moi, je l'aurais guérie avec du sang. » La nourrice paraissait regarder comme le plus sanglant des affronts la générosité de Salus. Et quand je lui proposais ce mot, « Non, 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 » me disait-elle, « monsieur, il n'y a point de générosité contre l'amour. » Quand on s'aime dans mon pays, on s'aime, et on ne sait pas autre chose. Vous autres Français, vous ne comprenez pas la vertu d'un cœur du Tibre. L'eau de votre pays délave le cœur. Un Romain aurait ruiné et déshonoré ma jeune maîtresse, mais il l'aurait aimée jusqu'au sang. Je le méprise. Allez !»